Deutsche Welle. Le club de l'auditeur.
Aujourd'hui, je crois que la COP doit être une solution pour l'Afrique. Les grands pollueurs doivent savoir qu'aujourd'hui, au lieu d'accueillir des migrants, il faut faire en sorte que leurs projets environnementaux soient financés. Et la COP23 doit être le remède de ces questions de chômage, les questions de la pauvreté, les questions des énergies renouvelables, les questions des changements climatiques en général.
Le réchauffement climatique et ses conséquences pour l'Afrique, c'est le sujet de ce club des auditeurs et internautes, animé par Mireille Drone, comme tous les samedis, à 17h et tous les dimanches à 7h, temps universel. Bienvenue à toutes et à tous. Un grand merci à tous ceux qui nous envoient leurs encouragements ou les témoignages de leur fidélité, comme Jaime de Ciudad Juárez au Mexique, Hugo de Nantes en France, Christophe de Lomé au Togo, Achille de Korogo en Côte d'Ivoire, Aboubacar de Bamako au Mali, Nathan de Bukavu en RDC et Mahamat de N'Djamena au Tchad. Et puis félicitations à Habib Pascal de Dakar au Sénégal, Serge de Palimé au Togo et Étienne de Vikong en RDC. Ils ont fêté cette semaine leur anniversaire. La conférence annuelle de l'ONU sur le climat se poursuit à Bonn. Les représentants de 196 pays sont réunis jusqu'au 17 novembre pour cette 23e édition de la COP qui tente d'avancer sur la mise en œuvre de l'accord de Paris, adopté fin 2015. Ils doivent s'accorder sur les règles d'application de l'accord qui vise à garder le réchauffement sous 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Les États-Unis sont là, malgré leur retrait du pacte annoncé par Donald Trump, qui ne sera effectif qu'en 2020. Alors beaucoup d'entre vous suivent cette conférence de près et espèrent que les responsables de ce monde prendront leurs responsabilités, comme allait de Lomé au Togo. Nous souhaitons une bonne réussite à la COP23, écrit-il. Après le retrait du deuxième plus gros pollueur de la planète, on se pose beaucoup de questions sur les changements climatiques. Inondations par-ci, sécheresse par-là, l'Afrique est la plus grande victime car elle dépend essentiellement de la nature dans son agriculture, souligne Allais. Cette conférence doit permettre de prendre des engagements majeurs pour sauver la Terre et ses occupants des griffes de la hausse de la température et ses conséquences, pense aussi Lolo de Tsevio au Togo. Mais jusque quand Donald Trump va-t-il continuer de tourner en rond sur les questions capitales du réchauffement climatique? Et si Lolo s'inquiète, c'est qu'au Togo, certains villages de pêcheurs ont déjà disparu de la carte. D'autres villes, dont Anéo, l'ancienne capitale du Togo, disparaîtront dans quelques années si rien n'est fait pour renverser la tendance en matière de réchauffement climatique, affirme-t-il. Bewezima du Togo également le confirme, ce phénomène de terre avalée par la mer est visible, la mer avance et les villages sont engloutis par les eaux, les riverains en sont témoins et montrent la distance qui séparait la côte et la mer, exemple la route qui longe la côte togolaise vers la frontière Togo-Bénin a été déplacée 3 fois de suite à cause de l'érosion côtière, nous écrit Bewezima. Memeko du côté de la RDC ou Patrick de Kinshasa affirme que le réchauffement climatique est très perceptible, seulement voilà, les pays pollueurs bénéficient de l'industrialisation qui est à la base du dérèglement climatique, mais certains, comme Donald Trump, ne se sentent pas concernés. Et donc, les appuis financiers feront défaut, craint Patrick, qui pense que Trump gèlera tout support pendant sa présidence. Or, souligne Steve d'Abidjan, on peut se réunir 1000 fois, mais sans les moyens financiers, les visions de ces rencontres resteront sans suite. Du coup, Hiro de Dakar, au Sénégal, attend que les pays soient unis pour combattre ensemble le phénomène du réchauffement. Il aimerait lui aussi que Donald Trump revienne sur sa décision et accompagne l'accord de Paris, parce que même dans la banlieue dakaroise, la montée des eaux est ressentie. Alors il faut éviter les usines qui polluent et interdire les voitures qui fonctionnent au diesel, mais notre priorité, c'est de lutter contre les coupeurs de bois, aussi dans la forêt de Casamance, et planter beaucoup d'arbres, écrit Hiero. De son côté, Rachid du Togo ne se fait guère d'illusions et pense qu'avec la crise politique qui règne dans son pays actuellement, les responsables ne prendront pas de mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Et plutôt pessimiste aussi, Davy écrit sur Facebook « Je ne vois pas bien comment l'Afrique pourra contribuer efficacement à la COP. L'Afrique qui produit le moins d'émanations toxiques subit de plein fouet la dégradation environnementale bien réelle », observe Davy qui lance un appel. La question est cruciale et nécessite une profonde réflexion des élites africaines. Il faut agir, écrit-il. Alors certains sont très actifs, comme Mamadou Diallo, journaliste guinéen engagé. Il a déjà participé à la COP21 de Paris et à la COP22 de Marrakech. Ici, à Bonn, il compte bien plaider pour l'Afrique à la COP23. Il est l'invité de ce club.
Dites-moi pas que vous le voyez pas, vous le sentez pas, ce changement, ne me mentez pas. Le climat part en vrille, vous attendez quoi? Combien de Catherine nous faudra-t-il pour accepter ça?
J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mamadou Diallo, qui nous vient de la Guinée, de Conakry. Mamadou, bonjour.
Bonjour, Mireille.
Alors, vous êtes journaliste minier et environnemental, entre autres.
Oui, je suis journaliste minier et environnemental. Directeur de publication du site Afrique Vision. Et je suis également animateur des émissions sur les questions minières et environnementales en République de Guinée, notamment sur Nostalgie et Atlantique FM, qu'on appelle Mine et Développement tous les vendredis, Club des Mines tous les dimanches et Climat Vert sur Nostalgie également tous les mardis.
C'est dire
je suis
donc,
également activiste et responsable communication d'une ONG Action Mine qui traite les questions de la gouvernance environnementale et minière.
C'est-à-dire que les mines jouent un rôle primordial en Guinée, bien sûr. Mais pour commencer par votre présence ici à la COP23, quel intérêt vous portez à cette conférence?
Bon, vous savez qu'aujourd'hui, le processus enclenché par l'humanité par rapport à la protection de l'environnement, à la lutte contre le réchauffement climatique, toutes les parties prenantes doivent vraiment s'impliquer pour y parvenir, c'est-à-dire pour atteindre les objectifs. C'est la raison pour laquelle moi, en tant que jeune Guinéen, journaliste qui traite les questions minières environnementales, on se dit évident qu'on prenne part à ces différentes rencontres, histoire de s'imprégner davantage, mais surtout de donner nos points de vue par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique, parce que nous sommes sur le terrain tous les jours et nous sommes les véritables victimes aujourd'hui de ces changements climatiques, ceux qui sont dans les bureaux, les grandes voitures et 4x4, n'ont pas anticipé les conséquences liées au réchauffement climatique, mais ceux qui sont sur le terrain, qui sont souvent dans les zones affectées soit par la pollution ou le tarissement des cours d'eau. Et il y a également aujourd'hui l'exploitation minière, par exemple quand vous prenez le cas de la Guinée qui est un pays minier par excellence, nous avons plusieurs compagnies minières qui ont du mal parfois à respecter les normes environnementales, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ces différentes zones-là, il fait excessivement chaud. On parle d'ailleurs d'une menace de sécheresse, quand vous prenez la Haute-Guinée, c'est ma région d'ailleurs, où il y a plusieurs compagnies qui exploitent pendant plusieurs décennies et qui, juste par présent, n'arrivent pas à faire en sorte qu'aujourd'hui, les normes environnementales soient respectées convenablement. Et cela est dit parfois à des manques de moyens par l'administration guinéenne ou par le non-appui de certaines institutions internationales qui sont habilitées à faire en sorte qu'on applique le principe pollueur-payeur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les pays africains comme la Guinée ont du mal vraiment à faire en sorte que les normes environnementales soient respectées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique est la principale victime des changements climatiques.
C'est ça, parce que de façon générale, justement, ce sont plutôt les pays dits développés, occidentaux, qui sont les principaux pollueurs, et l'Afrique paye les pots cassés. Mais là, vous êtes en train de me dire qu'un pays comme le vôtre, la Guinée, participe aussi finalement à ce réchauffement climatique.
Oui, justement, quand vous prenez aujourd'hui la statistique par rapport aux pays qui sont victimes des changements climatiques, l'Afrique est la principale victime avec un taux de pollution de 4%. Vous prenez l'Europe qui occupe, je crois, la troisième place, après la Chine, 25%, les États-Unis, deuxième place, et qui semble se retirer aujourd'hui par rapport à l'accord de Paris, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un coup dur pour le continent africain.
Pour vous, c'est une menace?
Évidemment, c'est une menace. J'ai échangé hier avec un professeur qui donne des cours sur les réchauffements climatiques aux États-Unis, qui m'a dit que c'est le bon moment que les autres États, notamment les États africains, les États européens, fassent un véritable lobby pour ramener Donald Trump à la raison. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les différents fonds qui sont alimentés par les différentes institutions, les États-Unis occupent, si vous voulez, la grande partie, le fonds vert, le fonds climat, le fonds mondial de l'environnement.
Le financement.
Voilà, toutes ces institutions-là aujourd'hui sont alimentées en, si vous voulez, 50% ou 60% par les États-Unis. Si les États-Unis se retirent, comme ils l'ont annoncé, c'est le monde qui est victime, mais surtout l'Afrique, parce que là, l'Afrique en a besoin aujourd'hui. Les projets environnementaux que les Africains disposent aujourd'hui peuvent accroître la croissance économique du continent, mais aussi, c'est des projets qui peuvent vraiment lutter contre le chômage dont l'Afrique est victime aujourd'hui. Il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui ont fini des études et qui sont expérimentés, qui ont de l'expertise, du talent, vraiment, et qui sont vraiment persévérants par rapport à la gouvernance environnementale, mais qui ont du mal, vraiment, à avoir des financements liés à la réalisation de leurs projets. Et récemment, il y a un jeune Guinéen qui a expérimenté un projet qu'on appelle Biochar, qui fabrique le charbon sur la base des déchets. Il fait le tri avec ses petits moyens, un coup pour un débit financé à hauteur de 3 000 euros. Et puis, il a mobilisé un certain nombre de jeunes qui a fait ce qu'on appelle le tri des déchets. C'est-à-dire
vous savez, il y a dans les décharges, dans les déchetteries.
Oui, justement, parce que vous savez qu'il y a les déchets solides, il y a les déchets liquides, mais ils utilisent les déchets solides. Mais il faut purifier ces différents déchets-là, parce qu'il y a des bio non dégradables, il y a des biodégradables. Donc, on utilise cela pour faire en sorte qu'aujourd'hui, que les femmes, en tout cas, soient à l'abri, si vous voulez, de la déforestation, de l'utilisation du charbon. Parce que l'Afrique utilise jusqu'à présent le charbon, la plupart des pays. C'est vrai qu'il y a certains pays qui commencent à changer la donne. Mais la Guinée, par exemple, c'est un pays qui n'utilise pas tellement le gaz, comme par exemple le Sénégal ou d'autres pays.
Le charbon de bois reste à la base.
Le charbon de bois reste. Et qui parle de charbon de bois parle de la déforestation. Et qui parle de la déforestation parle de réchauffement climatique. Et au-delà de cette déforestation, il y a l'exploitation minière. Aujourd'hui, ce jeune homme a du mal à avoir des financements. Parce que tout simplement, les institutions habilitées à financer ce projet n'ont pas encore la volonté d'appuyer les jeunes et même le pays en général. Donc, c'est pourquoi il est important que les gouvernants africains fassent ce qu'on appelle des synergies d'action pour influencer un peu, même si on sait qu'on n'a pas encore de véritables lobbies, si vous voulez, l'expertise qu'il faut pour pouvoir inverser la tendance au niveau international. Quand vous prenez les États-Unis, l'Europe et l'Asie, il faut des gros moyens. Mais surtout, il faut avoir des hommes qu'il faut, des techniciens bien avertis. Aguerri pour pouvoir vraiment influencer dans les différents groupes de négociation. Aujourd'hui, l'Afrique a ce qu'on appelle le groupe 77 et puis élargi à la Chine qui font ce qu'on appelle les négociations avec les autres pays. Mais ça ne suffit pas. Il faut impliquer la nouvelle génération africaine qui est aujourd'hui imprégnée des questions minières et environnementales, mais surtout qui commence vraiment à en pâtir les conséquences liées au changement climatique.
Vous pensez que même au-delà des fonds qui ne sont peut-être pas mobilisés non plus cette fois-ci, certains sont sceptiques, qu'il est important déjà que les Africains, les jeunes comme vous, vous vous fassiez entendre lors de ce genre de rencontres.
Oui, justement, vous savez que les bailleurs des fonds, parfois, quand ils voient un jeune comme moi, qui a moins de 30 ans, qui participe, par exemple, à une négociation climat, ça le rassure un peu parce qu'il est en face d'un jeune homme qui est ambitieux et qui vraiment sait de quoi il parle. Il a une vision pour son pays. Vous prenez par exemple l'INDC de la Guinée, c'est-à-dire les engagements que la Guinée a pris à Paris. Vous le savez, parmi les 195 comme ça qui ont pris part, il y a eu environ plus de 150 qui ont pris des engagements. Et la Guinée a pris 8 engagements. Dans ces engagements, il y a ce qu'on appelle l'adaptation et l'atténuation. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'atténuation, nous sommes en avance par rapport à un certain nombre d'Afrique parce que tout simplement, la Guinée a un barrage hydroélectrique qu'on appelle Kaleta. Il y a un autre barrage de grande envergure qui est en cours de finalisation, qu'on appelle Swapiti avec 450 MW, l'autre Kaleta avec des 140 MW. Il y a un autre barrage qu'on appelle Kukutamba. Dans l'adaptation, par exemple, la Guinée a sollicité 6,4 quelques millions de dollars pour faire face à l'adaptation, pour l'atténuation. C'est 1,4 millions de dollars. Mais on ne peut pas mobiliser ces fonds-là sans pourtant impliquer les jeunes qui sont imprégnés des questions minières et environnementales. Que ces jeunes-là puissent vraiment peser un peu dans les lobbies. Parce que l'Europe, les États-Unis ont ce qu'on appelle l'obligation sociale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines institutions ou certains gouvernants de ces différents pays-là sont un peu sceptiques par rapport au financement des projets environnementaux. Donc il faut amener des jeunes, les former en amont et en aval pour qu'ils puissent vraiment prendre part à ces différentes rencontres.
Mais vous me disiez que ces formations, elles existent déjà, puisque vous, vous êtes justement spécialisé déjà dans le domaine. Certains ont même proposé d'introduire, par exemple, des cours d'écologie dès le primaire pour sensibiliser la population dès le plus jeune âge de la nécessité de respecter l'environnement. Donc, mais il y a déjà des formations adéquates en Guinée.
Oui, oui, parce que souvent, nous bénéficions des formations soit au niveau national ou international, soit en ligne. Et aujourd'hui, nous avons initié ce qu'on appelle l'éducation environnementale à la base, c'est-à-dire dès l'école primaire. Il y a une fille récemment qui a lancé une pétition, ensemble, une collègue, et nous avons tous signé pour que vraiment l'éducation environnementale, que ce programme soit vraiment instauré au niveau primaire, appliqué, même au niveau maternel. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans la tête. Moi, par exemple, par le passé, j'étais les sachets plastiques dans la rue, à Conakry. Mais depuis que j'ai commencé vraiment à m'imprégner des conséquences liées à ça, je me dis non, écoutez, même si c'était ma bêtise, mais non, je mets le sachet ici, tant que je ne vois pas une poubelle. Et nous avons parlé de ça jusqu'à ce que le gouvernorat de la ville de Conakry, par exemple, a instauré des poubelles publiques. C'est vrai que toutes les zones ne sont pas couvertes pour l'instant, mais ce n'est qu'un débit. Donc, il y a eu cette initiative qui a été matérialisée. Il y a eu ce qu'on appelle la police verte, parce que là où nous avons intensifié des sensibilisations, des communications liées, par exemple, à l'importance de la protection de l'environnement. Et aujourd'hui, notre vrai combat, c'est de faire en sorte que les bio non dégradables ne soient plus utilisés en Guinée. Par exemple, les sachets, qui peuvent prendre plus de 100 ans, on parle de plus de 10
décennies. Mais ils ont été interdits d'ailleurs dans plusieurs pays d'Afrique.
Déjà. Oui, justement, c'est notre combat. Il y a même une dame qui réside dans une ville en Haute-Guinée, qui est venue ici même, qui est en train de transformer ces sachets plastiques, parce que là, quand même, nous avons assez d'industries locales qui produisent ces sachets plastiques. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle l'enjeu économique, mais il faut faire comprendre à ces gens-là que derrière ça, il y a des mesures idoines qu'il faut vraiment utiliser pour faire en sorte que l'environnement ne soit pas affecté derrière l'enjeu économique. Mais au-delà de ça, c'est de ramener les sociétés minières qui exploitent nos minerais à respecter. Quand vous prenez le code minier de la Guinée, dans son article 144, on parle de la restauration des sites exploités. Il y a ce qu'on appelle le fonds fiduciaire que les compagnies minières déversent pour qu'après l'exploitation, on fasse ce qu'on appelle la restauration, le reboisement. Parce qu'il y a des communautés aujourd'hui qui sont victimes de ce qu'on appelle de l'expropriation des propriétés terriennes. Ils ont du mal à avoir des espaces où cultiver. Par le passé, ils vivaient de ça. Mais depuis l'installation de ces différentes sociétés minières, aujourd'hui, c'est des communautés qui pratiquement n'ont pas assez de sources de revenus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a assez de conflits dans ces zones minières parce qu'au-delà du fait qu'il y a la pollution à grande échelle, il y a l'aggravation de la pauvreté. Parce que les fonds qui sont payés par ces compagnies, notamment quand vous prenez la taxe sur le chiffre d'affaires qui est de 0,5% par compagnie minière selon la catégorie. Il y a d'autres, par exemple, qui payent ce qu'on appelle la taxe superficielle. Si vous avez 20 mètres carrés ou 100 mètres carrés, vous payez 140 $ par mètre carré. Donc, tous ces fonds-là sont payés, mais les communautés ne sont pas...
Ça permet de couvrir le manque à gagner.
Évidemment. Donc, ce qui fait que vous avez suivi récemment les soulèvements populaires dans la région bauxitique qu'on appelle Boké, à peu près 50 km de Conakry. Il y a également d'autres zones comme la Haute-Guinée, qui ont certaines zones aussi minières, se sont soulevées récemment parce qu'ils estiment que vraiment, ils semblent être oubliés par l'administration publique, notamment par le manque d'infrastructures de base. Ils estiment qu'avec toutes les tonnes de minerais qui sont en tout cas exploitées dans leur zone, qui sont acheminées vers l'Europe ou d'autres pays, en tout cas, ils n'arrivent pas à avoir la rentabilité de la présence de ces compagnies-là. Donc, cette fois-ci, grâce à notre implication de ces différentes initiatives locales, le pays est venu cette fois-ci avec une cinquantaine de projets. Le gouvernement guinéen via son ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts venir avec ces différents projets-là. Et nous avons fait en sorte qu'il y ait une équipe dynamique pour communiquer le contenu de ces projets-là, des projets chiffrés dont la communication peut vraiment attirer l'attention de ces bailleurs de fonds présents à cette COP23.
Ça commence par le respect et l'une des choses à faire, c'est un commerce équitable pour eux, nous et notre terre. Les grands discours, c'est bien, mais les petits gestes, c'est mieux. La différence, on doit la faire aujourd'hui, car on le peut.
Mais est-ce que vous avez des données chiffrées, des retombées directes de la pollution, par exemple, de ces mines sur l'environnement, sur le climat?
S'il y a le principe polyère-payeur qui est appliqué,
Non,
cela n'est pas appliqué. Parce que le gros problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un manque de synergie d'action des différents départements ministériels et même de certaines structures ou institutions. Le ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts, c'est un département aussi stratégique dans un pays comme le nôtre. Mais c'est un département qui est vu, selon d'autres, comme un ennemi juré.
Voilà, parce que par rapport à la... des pressions, j'imagine, aussi au niveau économique et politique.
Oui, justement, il y a des pressions économiques et même politiques. Parce que parfois même, c'est des institutions internationales qui s'impliquent par rapport à la pression derrière une société minière, une multinationale. Quand vous prenez le cas, par exemple, la société Rio Tinto, ou vous prenez Guinée Alumina Corporation, ou vous prenez la SMB, vous prenez la CBZ, la compagnie de bauxite de Guinée. Il y a assez de personnalités au niveau international qui ont des sous dedans, et qui sont soit actionnaires de façon directe ou indirecte, donc qui ont du mal, quand vous leur demandez de respecter le principe polyère-payeur, ils se rendent compte que beaucoup d'argent, donc il faut passer par des alibis pour pouvoir dissuader le département, ça vraiment d'attirer leur attention par rapport au paiement. C'est le problème aujourd'hui. Sinon, un département qui doit être riche, en tout cas c'est le ministère de l'Environnement qui doit être hyper riche parce qu'il y a assez de sources de revenus que ce département peut vraiment utiliser pour engranger des fonds à l'État. Et c'est vrai que la donne commence à changer un peu, il y a d'autres sociétés qui commencent à payer, même si c'est de façon forfaitaire. Mais pour l'instant, l'objectif n'est pas atteint, c'est le combat. Mais surtout, il faut faire en sorte que la société civile, parce qu'avant, il n'y avait pas une société civile spécialisée en Guinée, c'est-à-dire qui traite spécifiquement des questions minières ou qui traite spécifiquement des questions environnementales. Aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes forums, des ONG et même des journalistes qui animent uniquement des émissions sur les questions minières environnementales. Donc ces gens-là aussi contribuent à faire en sorte que ces sociétés-là puissent vraiment respecter un certain nombre de dispositions concernant la législation minière ou environnementale.
C'est-à-dire que par ces émissions environnementales, vous sensibilisez la population de façon générale, qu'on prenne conscience donc du problème et que la pression soit d'autant plus forte du coup sur les responsables.
Oui, justement, je prends l'exemple. En 2014, j'ai mené une enquête sur la pollution dans une préfecture qu'on appelle Dingirai. C'est une société qu'on appelle IMS, qui assimile les produits toxiques à une société minière qu'on appelle SMD, Société minière de Dingirai. Malheureusement, le camion de cette société qui assimile les produits toxiques, notamment le cyanure, s'est déversé dans un champ de monsieur qui avait environ 100 hectares. L'entreprise en question a utilisé ses bras longs pour calmer l'ardeur des communautés qui sont victimes, et même de la personne en question, parce que la localité s'est levée pour protester. Alors, ils ont débloqué à l'époque 800 millions, à peu près 80 000 euros. Malheureusement, la personne victime en question n'a eu que 15 millions, 1500 euros. Il devrait avoir tout 100 millions selon ce qu'il avait sollicité à l'époque. Et voilà, moi j'ai enquêté sur cette affaire et j'ai été interdit même de séjourner dans la localité pendant un moment par le préfet à l'époque. Et dans la même enquête, j'ai retrouvé dans la localité une déforestation de grande envergure. Les gens ont commencé à me dire qu'il ne faut pas vraiment se mêler à enquêter ceci, cela, sinon vous risquez en tout cas de périr. Je dis, c'est mon métier, je me suis engagé vraiment à protéger l'environnement et je ferai de mon mieux. Et voilà, j'ai eu les documents. Il s'est avéré que vraiment, c'est un responsable local qui, à la base, en complicité avec d'autres personnes qui sont à l'extérieur de la localité, qui sont livrés à la déforestation pour vendre les parcelles à d'autres personnes, pour dire qu'il y a ce qu'on appelle la démographie galopante. C'est dit non, ce n'est pas la raison de se livrer à la déforestation, alors qu'il y a des espaces qu'on appelle des espaces verts, qui sont censés en tout cas d'être protégés. Mmh. En détruisant ces espaces-là, la localité risque d'arrêter la sécheresse. Donc, j'ai réuni toutes les preuves, j'ai publié à l'époque, et conséquence positive, c'est que le préfet a pris un communiqué pour interdire la déforestation dans la localité. Et finalement, même le directeur de l'environnement a été démis de ses fonctions. Le préfet également, après quelques mois, il a été démis de ses fonctions. Et aujourd'hui, la plupart de ces communautés, même s'ils ne sont pas lettrés, on les explique en langue locale pour faire en sorte qu'aujourd'hui, quand une compagnie minière doit s'implanter, voilà ce qu'elle doit faire pour vous. Il y a ce qu'on appelle des éthiques d'impact environnemental. Il y a ce qu'on appelle le plan de gestion sociale et environnementale aussi, le PGE, qui doit être en tout cas réalisé par des structures. Donc il faut vraiment des véritables batailles médiatiques de sensibilisation pour faire en sorte que non seulement que ces communautés-là soient vraiment bien formées, mais surtout qu'elles aient ce qu'on appelle des activités alternatives, c'est-à-dire l'agriculture et d'autres, qui peuvent leur permettre de vivre sans même ces mines-là. Même si aujourd'hui elles sont victimes de l'expropriation des terres, des espaces agricoles qui sont devenus des zones minières, mais il faut faire en sorte que vraiment ces zones-là aient d'autres activités permettant aux communautés de vivre sans qu'il y ait des problèmes. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est un combat qui n'est pas facile, mais voilà, nous espérons que vraiment on va atteindre l'objectif.
Très bien, Mamadou Diallo, donc je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous êtes donc journaliste minier et environnemental, que vous êtes aussi directeur de publication d'AfriqueVision.info et puis que vous animez des émissions environnementales sur les radios pour faire la sensibilisation des populations et contribuer ainsi à la transparence. Bon séjour donc ici à Bonn en Allemagne à la COP23 en espérant que vos souhaits seront réalisés et que les parties prenantes s'engageront concrètement à respecter donc leurs engagements.
Merci Mireille, c'est un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous dans ce studio Merci et surtout, cette COP doit être le levier de la croissance économique pour le continent africain parce que c'est l'Afrique, comme je l'ai dit, qui est la principale victime.
Notez que 2017 devrait être l'année la plus chaude recensée en l'absence du phénomène El Niño depuis le début des relevés, selon le bilan de l'Organisation météorologique mondiale, publié à Bonn à l'occasion de la 23e confluence climat de l'ONU.
Quand il sera grand M de mon bras, pourquoi y a plus de poissons dans la mer? Je veux dire quoi, que je savais pas ou que j'en avais rien à faire. Et quand il demandera papa, est-ce juste pour le bois que vous avez rasé le poumon de la planète? Je vais respirer avec quoi? J'aurai l'air d'un irresponsable, incapable, un coupable au comportement inexcusable. Une nature bousillée, un monde de CO2. Est-ce vraiment le futur qu'on voulait construire pour eux?
Voilà, si vous voulez réagir à ce club ou sur tout sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à m'envoyer un mail par exemple. Mon adresse c'est Mireille. www.drone, D-R-O-2-N-E, @dw.com. Je vous rappelle aussi que vous pouvez consulter notre site internet en tapant dw.com/français-sans-cédille. Vous y retrouverez toutes nos émissions à télécharger dans la rubrique médiathèque en haut de la page d'accueil, ainsi que les liens vers nos pages Facebook et Twitter. Si vous voulez recevoir nos infos via WhatsApp, il suffit de taper dw.com/WhatsApp pour vous inscrire. Et vous êtes bien sûr invité à nous laisser des messages parlés ou écrits. Voilà, restez-nous fidèles et j'espère vous lire très bientôt. En attendant, bonne continuation à tous. Au revoir.
Je veux pas marcher sur le sol d'une mer asséchée en me disant j'aurais dû peut-être trier mes déchets. À mes yeux, c'est une erreur, aux yeux de nos enfants un péché. Tout le monde crie au drame, mais personne n'a l'air pressé. Je veux pas voir le jour où l'eau aura la valeur du pétrole. Où le pétrole ne sera plus, mais on perd encore pour ses bémols. Je suis pas devenu monsieur écolo, c'est clair. Mais avec ce que je sais aujourd'hui, je peux faire mieux que hier. Vas-y, consomme, qu'on se consume. Consomme, allume, allume. Mais que ferais-tu si notre futur se retrouve entre marteau et l'enclume? Si ça brûle.